Bonjour à toutes et à tous, je suis Florine et on se retrouve pour une nouvelle émission sur Radio Moulin. Aujourd'hui, nous sommes le 16 juillet 2025. Il fait beau, les vacances scolaires sont déjà entamées. C'est une journée idéale pour parler écologie dans les quartiers populaires. On part en reportage à l'atelier Injustice Climatique organisé par l'association Get Up pour les jeunes de l'espace jeunesse à Port de Valenciennes. Après une matinée rythmée par la préparation d'un déjeuner équilibré et d'un goûter composé de cookies et de salades de fruits, l'après-midi est placé sous le signe de l'écologie populaire. Get Up est une association qui travaille sur la justice sociale depuis 2016 en Seine-Saint-Denis. Nour, responsable du pôle éducation, et Mehdi ont quitté le 93 et sont venus dans notre 59 pour sensibiliser nos jeunes aux enjeux de justice sociale et climatique.
Donc Get Up, c'est une association en Seine-Saint-Denis, dans le département du 93 à Paris. Et Get Up, c'est une association qui œuvre pour plus de justice sociale. Justice sociale, est-ce que ça vous parle ? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire, justice sociale ? Et en fait, dans les quartiers, on va avoir ceux qui cumulent parfois des inégalités, à la fois administratives, économiques, financières, territoriales, etc., etc. Donc c'est plusieurs types d'inégalités assez différentes. Et quand dans un quartier, dans un territoire, on cumule autant d'inégalités, on va appeler ça un quartier populaire ou un quartier prioritaire de la ville. Ça, c'est la définition que donnent notamment les institutions. Okay ? Et donc, Get Up, son objectif, c'est de œuvrer pour plus de justice sociale, donc de faire en sorte de réguler un petit peu les inégalités, de faire en sorte que toutes les populations, quelles qu'elles soient, qu'elles vivent en quartier populaire ou non, ils puissent avoir les mêmes droits, les mêmes attentes et les mêmes opportunités surtout. Et nous, on travaille beaucoup avec eux.
L'association Get Up a produit un rapport nommé Injustice climatique qui, à travers les récits de 1000 jeunes de quartiers populaires et d'outre-mer, ont établi des analyses et des constats. Le rapport montre que l'écologie est un droit pour tous, autant pour les habitants de quartiers populaires que ceux des autres territoires plus privilégiés. Il permet de briser les stéréotypes sur l'écologie et redonne la légitimité à tous les citoyens de s'enquérir de la question climatique. Mais pourquoi le rapport ne se nomme pas justice climatique mais injustice climatique ?
Donc injustice, c'est une très très bonne question, c'est parce que de base, on voulait appeler le rapport justice climatique. Seulement quand on a entretenu des gens, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, quand on fait de la recherche, en fait, le principe de faire de la recherche, c'est aller questionner des gens. Donc c'est par exemple, moi je vais aller questionner Farida qui habite à tel endroit et je vais lui demander, oui Farida, toi au quotidien, comment est ta vie, est-ce que tu fais plutôt ci ou plutôt ça, etc. Je vais lui poser ce qu'on appelle des questions ouvertes ou fermées pour avoir le plus de données possible pour constituer mon rapport. Mais bien évidemment, je ne peux pas poser des questions que à Farida, je vais en poser à d'autres personnes pour compléter mon savoir et mes témoignages, d'accord ? Pour ensuite constituer un rapport et faire ce qu'on appelle des statistiques, etc., etc. Et donc, quand on a interrogé des personnes, et notamment des jeunes de quartiers populaires, un peu des jeunes comme vous, mais qui sont un tout petit peu plus âgés, on leur a demandé, ben voilà, qu'est-ce qu'ils pensent de l'environnement, qu'est-ce qu'ils pensent du climat, etc. Et en fait, on leur a parlé de justice climatique, et eux, ils nous ont dit, ben non, nous, ce qu'on voit au quotidien, c'est des injustices climatiques. Et donc, on s'est dit, ah ouais, en fait, c'est plus pertinent de parler d'injustice climatique que de parler de justice climatique. Par exemple, à travers le cas de Mayotte, il y a eu une très très mauvaise gestion de la catastrophe naturelle, et notamment, depuis très longtemps, une mauvaise gestion de l'eau sur l'île de Mayotte. D'accord ? Mayotte, c'est aujourd'hui un territoire qui est français, même s'il se trouve très très loin de la métropole française, mais c'est un territoire qui reste français. Et donc, comme le dit votre camarade, théoriquement, tous les territoires français doivent être traités à la même enseigne. Ça veut dire que, ce qu'on se trouve à La Réunion, à Mayotte ou en métropole, dans les Outre-mer, etc., les territoires doivent être traités de la même façon. Donc c'est-à-dire qu'ils doivent avoir accès de la même manière à l'eau potable, avoir accès à l'électricité, au gaz, mais aussi au matériel de première nécessité.
Après cette présentation, place au débat mouvant. Comme son nom l'indique, l'objectif est de faire un débat où les deux extrémités de la pièce représentent le oui et le non. Chacun doit se déplacer en fonction de son avis sur la question.
Je laisse Mehdi poser la première question.
Du coup, côté de nous, là-bas, c'est oui. De mon côté, c'est non. Ok ?
Oui, non.
Du coup, première question. Est-ce que pour vous, l'accès à une alimentation saine, c'est une question importante pour vous.
Je comprends rien.
Est-ce que manger sainement, c'est important
pour vous?
Donc oui, c'est de mon côté, et non, c'est du côté de Nadia.
Après quelques minutes de réflexion, tous se sont rangés du côté du oui. Alors place à l'échange sur la question.
C'est quoi une assiette équilibrée?
Il y a du filet, il y a des
protéines. Attends,
je pense 50% de légumes et féculents.
Ah, c'est bien. Arrêtez de rigoler, il y a
totalement raison.
Une viande avec de la protéine.
Et j'apprends, ça change un peu plus.
C'est après, je sais plus comment ça s'appelle. Le régime jeune.
C'est bien, c'est ça.
Très, très bien.
Et Alice, il a dit. Dis-le. On s'écoute. Allez, dis-le. Vas-y.
Faut manger cette viande.
La taille de la main.
Ça pourrait être quoi les limites, ce qui nous empêcherait tous et toutes ici de manger sainement tout le temps?
Les prix.
Les prix.
Très bien.
Grossir.
Oui, alors ça, grossir, c'est quand c'est la conséquence de mal manger. Mais le prix, oui.
Ça pousse plus.
Attendez, mais il a raison. Ouais, vas-y. Continue.
Les fruits et légumes, ça pousse pas.
Pourquoi ça pousserait plus?
C'est
sécheresse.
La sécheresse. Et c'est pour ça, tout à l'heure, je ne sais pas qui a dit oui, pourquoi la question, c'est une préoccupation environnementale. C'est parce qu'aujourd'hui, manger sainement, non seulement c'est important, mais c'est ultra difficile. Et c'est surtout difficile pour les gens de quartier populaire. Parce que très souvent, c'est des gens qui ont un peu moins les moyens. Donc manger aujourd'hui, par exemple, bio, ou manger des fruits et légumes frais tout le temps, toute la semaine, ça coûte super cher.
Nour soulève ensuite une question importante, la surprésence des fast-foods dans les quartiers populaires.
Est-ce que, par exemple, dans les quartiers populaires ou dans les banlieues, si jamais vous y allez ici en banlieue à Lille, est-ce que vous voyez beaucoup d'épiceries bio, de par exemple de primeurs, etc.?
Quand vous mangez au champ.
Non ?
C'est un voisin.
Rarement alors ?
Non.
Et ça fait aussi partie des préoccupations des jeunes. Les personnes qu'on a interrogées dans le rapport, ce qu'ils disent, c'est en fait, nous, quand on marche dans le quartier, en fait, très souvent, on a des fast-food, des grecs. Mmh. On a effectivement les centres commerciaux avec qui nous poussent à la surconsommation, et notamment de viande, de produits qui sont parfois un peu frais, etc. Mais on a très peu de primeurs, on a très peu de magasins bio, etc. Et donc ça aussi, ça nous limite dans notre consommation d'alimentation saine.
Pas de légumes dans le quartier, mais les légumes que l'on achète en grande surface sont-ils si bons que cela?
Qu'on soit en janvier ou en juin ou bien même en septembre, souvent c'est les mêmes légumes, fruits et légumes qu'on retrouve chez notre primeur. Dans nos grandes surfaces, Carrefour, Leclerc, etc. Or, ça aussi, c'est hyper problématique et ça n'encourage pas justement la justice climatique.
Passons à la prochaine question.
Est-ce que vous pensez que vous avez des pratiques écologiques dans votre quotidien?
Oui, est-ce que vous pensez que vous avez des pratiques écologiques?
Non, c'est ici. Est-ce que vous êtes écolo?
Je n'ai pas compris. Est-ce que vous êtes écolo?
T'es
pas écolo.
Non, viens ici.
Et ici, les réponses sont moins tranchées.
Est-ce que vous pensez que vous êtes écolo dans la vie de tous les jours?
Donc, est-ce que au quotidien, vous avez des pratiques écologiques? Donc, oui, c'est
vous
de mon côté.
C'est
non, c'est du côté de Médine.
Ok,
allez, stop. On reste figé, on reste là où on est. Donc, on est à peu près moitié-moitié, je dirais, un peu oui, un peu non. Est-ce que ceux qui ont répondu non, par exemple, pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous n'avez pas des pratiques écologiques? Alors, je tiens juste à préciser une chose, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Peu importe où on se trouve, que ce soit du côté du oui ou du côté du non, c'est pas grave du tout. Ce qui est important pour nous, c'est pas la réponse, c'est les explications que vous donnez. D'accord? Donc peut-être quelqu'un dans le non qui veut nous expliquer pourquoi il s'est mis là-bas. Pourquoi tu t'es mis dans le non?
Parce que
pour toi, t'es pas écolo. Tu veux nous expliquer pourquoi?
Je trie pas.
Tu tries pas, ok, mais est-ce que tu fais autre chose? Parce qu'il y a le tri, effectivement, c'est ce qu'on voit beaucoup d'ailleurs. C'est bien, mais est-ce qu'il y a que ça?
Non, il y a pas que ça. Est-ce que t'as des petits frères ou pas? Oui. Des petits cousins? Est-ce que t'as déjà donné des vêtements à ton petit frère? Non. Quand ils étaient trop petits?
Oui.
Ça, c'est écolo. Ouais, ça s'appelle écolo.
Ça s'appelle comment?
Écolo.
Quand on réutilise quelque chose qu'on a déjà utilisé.
Renouvelable.
Renouvelable. Renouvelable.
C'est du recyclage. Tu vas en vélo au lieu d'en voiture. Tu sais, c'est une famille où t'as pas les.
Ok, peut-être ceux qui se sont mis dans le oui.
T'as recyclé ?
Pourquoi ça a été
du Nour et Mehdi rappellent aux jeunes que malgré ce qu'ils croient, ils sont écolos depuis tout petit.
On parle de ce qu'on envoie au bled, mais des fois il y a maison. Aussi ouais.
Ce qu'il y a à la maison.
Ce qu'on a à la maison.
Je sais pas, vous avez déjà vu les boîtes de glace chez vous là. Tout le temps à l'ouvrir, il n'y avait rien dedans. Ça c'est écologique. C'est des boîtes achetées pour des glaces, mais au final, la maman ou papa ou maman garde ces boîtes-là, où on met des outils, où on met du fil à coudre ou peu importe. Mais ça, c'est super écologique.
Ouais,
gâteau. Ouais, gâteau, exactement, en métal.
Les boîtes de chaussures. La boîte, les boîtes de chaussures. Bref, il y a plein de
choses.
Pour la question suivante, tout le monde se déchire.
Là, je vais me concentrer à son maximum. C'est la question la plus compliquée. J'ai vraiment besoin de vous, ok?
Les frites.
Les frites, c'est avant ou après le grec?
Avant.
C'est après.
Ouais,
ouais. Qui a dit après?
Comme ça, elle
pense avant. Quoi, pourquoi après?
Voilà,
moi, je pense avant.
C'est comme ça,
je pense avant. Moi, je pense avant.
Tu veux que je pense aller après?
En même temps. Attends, c'est écoute, c'est quoi?
C'est après.
Avant.
En même temps.
C'est avant.
C'est
après.
C'est après.
Afin de rester dans le thème, la prochaine activité proposée par GetUp consiste à décortiquer le grec de l'injustice climatique. À partir des ingrédients qui constituent un kebab, on va se rendre compte des différents problèmes qui constituent le dérèglement climatique et ses conséquences sanitaires.
De passer à la deuxième activité de cet atelier. La deuxième activité, elle est plus consacrée à, concrètement, dans votre quotidien. Là, on a parlé du grec et des frites. Bah, c'est hyper intéressant parce qu'on va parler de ça, du grec, et de,
le grec
de la justice climatique.
C'est quoi ça?
Justement, on va voir.
Le grec.
On va voir justement, est-ce que c'est une pratique écolo finalement de manger du grec ou
pas? Ah ouais, c'est bien
non,
écolo.
Non, pas tous les animaux.
Hein? Non, pourquoi c'est pas écolo? À ton avis, avant qu'on commence. Hein? Pourquoi c'est pas écolo? J'ai pas entendu la fin de ta question.
Les animaux, les bouffes.
Parce que.
Ils tuent les animaux.
On va parler des légumes pour commencer.
Et en fait, dans le grec, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a des légumes. Et les légumes, elles vont être importées de plusieurs endroits et elles vont être importées notamment pour les tomates. Aujourd'hui, le pays d'importation des tomates, c'est le Maroc. D'accord ? Je vous jure que c'est juste une conversation parce que je suis marocaine. Les tomates. Les tomates, aujourd'hui, une grande partie de l'importation qui est faite en France, métropolitaine, des tomates, c'est des tomates marocaines. Donc c'est des tomates qui proviennent du Maroc. Mais pas que, il y a aussi l'Espagne. D'accord ? C'est les deux grands producteurs ou en tout cas importateurs de tomates en France. L'eau, elle est très très importante pour faire pousser les aliments et donc du coup pour faire pousser la tomate. Mais du coup, si on consomme de façon excessive l'eau, qu'est-ce qui se passe après ?
Il n'y en a plus.
Et en fait, aujourd'hui, depuis plus de 6 ans, les nappes phréatiques au Maroc, elles sont sèches. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'eau pour produire et donc pour... je ne sais même plus quel est le terme déjà, produire en tout cas ces aliments-là et ces produits-là. Et c'est ultra problématique. Et du coup, quand on est dans une période de sécheresse dans un pays, Qu'est-ce qui se passe du coup pour les habitants du pays?
Bah ils meurent.
Ils se plaignent.
Ils meurent, ça c'est là, vraiment dans le cas dernier, donc dans le cas échéant, mais avant, ils se plaignent, oui, mais du coup, concrètement dans leur vie de tous les jours, qu'est-ce qui se passe?
Bah l'eau devient plus chère.
Les prix augmentent.
Ouais, le coût augmente.
Le coût augmente, la vie elle devient plus chère, et puis surtout, en fait, la consommation d'eau, elle est moins régulière. C'est-à-dire que bah si j'ouvre le robinet, il se peut que parce que. Depuis plusieurs années maintenant, les nappes phréatiques sont sèches, bah, il n'y a plus du tout d'eau quand j'ouvre le robinet. Du coup, quand il y a une tomate dans le grec, ça veut dire que la tomate, elle vient du Maroc, elle a été issue d'une monoculture, où on a utilisé des pesticides. Donc c'est possible que parfois la tomate, elle soit contaminée, et puis surtout, pour produire cette tomate, on a eu besoin d'énormément, énormément d'eau. Et puis en plus, on n'en parle pas, parce qu'on oublie ça souvent. Mais du coup, si la tomate elle est au Maroc, comment elle fait pour venir jusqu'en France?
Elle est transportée en camion.
En camion, mais avant le camion.
En bateau.
En bateau.
Parce qu'il n'y a pas un pont entre le Maroc et,
bah, non.
Et l'Espagne.
Bah non. Et donc du coup, on a besoin à la fois de la voiture, donc du camion, qui consomme énormément, et du bateau, pareil, consommation de pétrole, donc énormément.
On parle aussi de la viande.
Tout à l'heure, il disait, bah, en fait, consommer de la viande, enfin, en tout cas, consommer un grec, c'est pas bon pour l'environnement parce qu'on tue la bête et parce qu'en fait, on fait tourner la broche, mais au-delà de ça, c'était effectivement consommer de la viande. Et la consommation de la viande, pourquoi c'est problématique, éventuellement? Parce que ça veut pas dire qu'il faut pas consommer de viande.
Il y a pas du gras dedans.
Oui, donc en termes de santé, effectivement, la viande, c'est assez gras et ça peut, si on en consomme à outrance, ça peut être hyper problématique, ça peut faire monter le cholestérol.
J'ai une question.
Oui.
Quand on mange un kebab, après on a trop soif. Enfin, on boit toute la journée.
Ouais, parce que c'est super salé et super sucré.
Ah ouais,
okay. Ouais. Les sauces, c'est ultra sucré et la viande, souvent, elle est très salée parce que c'est une viande industrielle.
Mmh.
Et donc, ça te donne envie de boire tout le temps.
Vous aussi, ça vous fait ça?
Ouais, tout le temps. Et c'est d'ailleurs pareil, c'est ultra problématique parce qu'on rentre dans un cercle un peu vicieux parce que souvent, moi je sais qu'en tout cas, les garçons avec qui je travaille ou. comme Mehdi par exemple, quand on va au grec, eux ils prennent deux boissons.
Et pour finir sur le grec de l'injustice climatique, un point sur la boisson coupable de beaucoup d'entre nous, le fameux coca.
Et là on fait le focus sur le coca.
Ouais, de
parce qu'on a parlé de trois choses. On a parlé de à la fois le grec avant les frites, donc les frites, le grec et de la boisson. Parce que tout à l'heure je l'ai dit par exemple, mais si lui consomme. Hein. Pourquoi c'est mauvais pour la santé?
Parce que c'est trop gras.
Ouais, c'est trop gras.
Ouais, c'est trop sucré. Le cancer avec le coca.
Oui, pourquoi le cancer?
Le cancer avec le coca.
Il y a trop d'acide.
Si tu prends trop de sucre,
ouais, c'est ça.
Ouais.
J'ai du mal à le prononcer.
Non, c'est très bien.
C'est de la caféine.
8 morceaux de sucre, c'est beaucoup, hein?
Ouais, c'est beaucoup.
C'est énorme, 8 morceaux de sucre.
Nour de GetUp souhaite sensibiliser les jeunes au racisme environnemental, mais la chose n'est pas si aisée, car la notion est complexe. Avec des exemples concrets et une explication claire, elle parvient à synthétiser ce concept.
À votre avis, qu'est-ce que ça peut être le racisme environnemental? Non, non, on peut parler là déjà. On a dit pas mal de choses.
Bah là, tu viens de le dire là un peu. Avec ce que tu viens d'expliquer, le fait que c'est plutôt les pauvres, s'ils ont les thunes, ils vont nous donner, on va les aider s'ils sont pauvres.
Ouais, c'est exactement ça. Tu voulais dire quelque chose? La même chose peut-être avec tes mots? Mmh. Ça peut compléter?
Ouais, la même chose. Par exemple, l'État, il donne de l'argent aux grandes entreprises. Il donne, beaucoup d'argent et après, pas pour vous donner.
Ouais. Ok, alors, on va peut-être reprendre les mots déjà dans leur ordre. Qu'est-ce que le racisme? C'est quoi le racisme?
C'est une personne qui traite la différence de la peau.
Oui, pour les jeunes, oui, il y a la question de la différence.
Attendez. Une religion ou...
Oui, alors du coup, dans les critères de différenciation, il peut y avoir, ouais, la religion.
Ne pas aimer une personne parce qu'il n'est pas comme toi.
Oui, c'est même plus que ne pas aimer, parce qu'on peut ne pas aimer une personne, mais en tout cas, la mettre de côté, ouais.
C'est juger une personne parce que n'est pas comme les autres.
Ouais. C'est, derrière?
C'est une haine envers quelqu'un.
Ouais, quelqu'un seulement?
Envers une personne, qu'elle soit différente des.
Une religion.
Une personne.
Ou un groupe.
C'est ça, c'est avoir une haine envers une personne ou un groupe de personnes qui semble être différent de nous. Et en termes de différence, on va prendre plusieurs critères en compte. La couleur de peau, la religion, le sexe aussi. On va prendre aussi l'ethnie. Et bien évidemment, par exemple aussi l'orientation sexuelle. Il va y avoir aussi toutes les questions d'appartenance à une communauté ou à une autre. Et ça, ça va jouer dans les critères sur lesquels on va se baser pour être... pour faire preuve de racisme envers quelqu'un. Et donc le racisme, c'est vraiment cette idée d'exclure quelqu'un parce qu'il semble être différent de nous, en tout cas différent de la majorité. Est-ce que vous avez un exemple de fait raciste que vous avez pu vous subir ou vous avez pu être témoin ? Donc le racisme environnemental, c'est le fait d'être traité différemment en fonction de là où on se trouve, et notamment du territoire auquel on appartient. Et ça, parce qu'on fait partie des minorités, ou en tout cas, on fait partie des populations qu'on n'a pas trop envie de visibiliser, qu'on n'a pas trop envie de voir, et surtout dont on n'a pas envie de s'occuper. Et ça, c'est ultra important de se le rappeler. Aujourd'hui, les quartiers populaires, et c'est aussi pour ça qu'on est là, c'est qu'aujourd'hui, dans les quartiers populaires, on a des territoires qui sont complètement abandonnés par les politiques publiques, donc les politiques de la ville, les politiques comme les mairies, les municipalités, les départements, etc., qui abandonnent complètement des quartiers entiers. D'accord ? Et ça, parce que, et malheureusement, on n'en a pas la preuve concrète, mais on en a en tout cas la preuve factuelle, c'est-à-dire que dans tous les cas, ça reste factuellement des territoires abandonnés par les institutions. C'est aussi des territoires qui sont majoritairement habités par des populations non blanches, des populations, ce qu'on appelle racisées, issues des minorités. Et donc, c'est des territoires qui sont parfois abandonnés, qui ne sont pas du tout pris en considération dans les rénovations urbaines. On ne consulte jamais les populations, par exemple, pour parler d'environnement, mais pas que, pour parler de réhabilitation, pour parler de rénovation, pour parler de transition écologique. On parle de racisme environnemental aussi quand on fait une différence entre aussi certaines populations, mais certains territoires. On parlait tout à l'heure de Mayotte. Mayotte, c'est un territoire français, mais la plupart des gens qui habitent à Mayotte sont noirs. D'accord ? Et ça, ce serait une erreur de l'oublier. Parce que ça fait partie aussi des raisons, sûrement en tout cas, quasi sûr. Et là, c'est à titre personnel que je parle, que c'est aussi pour ces raisons qu'on a mal géré la crise à Mayotte.
Après 1h30 d'intervention, les jeunes ont assimilé de nombreuses informations concernant l'injustice climatique en pratique dans les quartiers et ailleurs. Ils ont pu prendre la parole librement et poser les questions qu'ils souhaitaient.
Franchement, l'atelier s'est super bien passé, les jeunes ont été hyper dynamiques, hyper sérieux, intéressés par la thématique, ce qui n'est pas évident quand on a leur âge, parce que c'est parfois des choses qui nous paraissent abstraites. Et là, pour le coup, ils avaient des choses à dire et du coup, pour nous, c'est que du positif.
Pour finir, on vous laisse avec les conseils de Nour pour œuvrer pour plus de justice climatique.
Peut-être la première chose que je pourrais dire, c'est que on est tous concernés. On est tous responsables, mais on n'est pas responsables tous de la même façon. Et la première façon, je pense, d'agir, c'est déjà de s'informer, d'être conscient. Et c'est déjà la première étape pour justement essayer de pallier à ces injustices-là. Et puis surtout, de continuer dans tout ce qu'on nous a transmis en héritage culturel, ce qu'on connaît déjà, parce qu'on est des écolos, inconscients, mais des écolos quand même. Et on a déjà des pratiques au quotidien qui font que on essaye de vrai pour plus de justice climatique, plus de justice sociale, et donc de continuer déjà sur cette voie-là, et si on le peut, aller un peu plus loin avec les moyens qu'on a.
S'informer est donc le maître mot pour faire avancer les choses. On vous invite à feuilleter le rapport de l'injustice climatique, téléchargeable gratuitement sur le site de GetUp, pour explorer l'étendue de la question depuis chez vous. C'était Florine et je vous souhaite une belle journée. À très bientôt sur Radio Moulin.